Tout le soleil est là et il est bien là.
Qu'est-ce que tu veux boire?
Je prendrai une bière, chérie.
Pour les vacances, c'est le camping ou rien.
C'est chaud, hein?
Radio Camping Paris.
Indispensable, la table de camping, soutien de bouteilles d'apéritif.
On a organisé les glaçons.
Et un de nos soucis numéro un maintenant, c'est mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir?
Tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h. Le psychédélisme, quel môme délicieux. Usé, abusé parfois, mais toujours empreint de rêves et de magie, de tripes visuelles et de philosophies alternatives qui nous plongent dans un ailleurs insaisissable et énigmatique. Car oui, le psychédélisme, c'est avant tout un voyage, une épopée, une Alice qui tripe et s'égare dans les merveilles de sa psyché. En même temps, la coquine avait goûté au gâteau et à la fiole magique. Et le psychédélisme, c'est aussi ces substances étranges que sont les champignons et le LSD. Ces psychotropes permettra de rendre l'âme visible et cette perspective tentante, bien qu'un peu effrayante, n'a pas manqué d'intéresser les médecins, les écrivains, les psychiatres et même l'armée et la CIA. Psychédélisme. Le mot est né en 1956 alors qu'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, échangeait avec le psychiatre Humphrey Osmond et lui écrivait ses vers. Pour rendre ce monde trivial, sublime, prenez un demi-gramme de phanérotime et son correspondant de répliqué. Pour comprendre l'enfer ou surgir angélique, prenez juste une pincée de psychédélique. Radio Campus Paris, c'est tout l'été du lundi au jeudi de 19h à 20h sur Radio Campus Paris. On vous est sur Radio Campus Paris, si on vient de parler psychédélisme, et ce n'est pas par hasard car on est en direct de la soirée Hippie Birthday organisée par le Petit Bain qui fête donc ses 6 ans cette année et a décidé de marquer le coup en plaçant l'événement sous le signe du love. Pour nous en dire plus et nous expliquer un peu le projet, nous recevons ni plus ni moins que le patron de Petit Bain, Ricardo, ainsi que le chargé de com, Johannes, et pour m'accompagner sur le plateau, Thomas. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Faut prendre le micro. Alors cette année, Petit Bain souffle sa 6e bougie. Pourquoi avoir décidé de marquer le coup et de fêter cet anniversaire comme ça?
Alors, c'est assez simple. Depuis l'été dernier, on a commencé à s'intéresser aux étés qui ont changé le monde. Et on avait démarré en 2016 avec les 80 ans du Front Populaire. Et cet été qui avait marqué les départs, les premiers congés payés. En se disant comment on voit ça aujourd'hui, comment 80 ans après ces choses-là ont façonné nos sociétés. Et en plus, on était l'an dernier en pleine manifestation de la loi travail, donc ça faisait vraiment écho à l'actualité. Et on s'est aperçu qu'il y a vraiment justement l'histoire qui bégaye et qui se répète comme ça dans le temps. Ça donnait une vraie ligne de conduite et ça nous permet aussi, donc cette année, de fêter les 50 ans du Summer of Love et de se dire qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet été 67 et qu'est-ce qui reste de cette philosophie. Et très curieusement, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses qui reviennent, beaucoup de choses qui perdurent, qui ne sont pas mortes, ne serait-ce que justement l'émergence du végétarisme ou du véganisme qui revient, enfin la non-violence, le... En 67, on était en pleine guerre du Vietnam, on parlait droit civique aux États-Unis. Enfin, c'était un monde qui a l'air très très loin et qui en même temps pose encore des questions aujourd'hui. Donc on n'est pas dans un regard nostalgique, si je parle trop, vous m'arrêtez. Mais plutôt, l'idée c'est de se dire, voilà, on met des ponts dans l'espace-temps et puis on regarde ce que ça donne aujourd'hui.
D'accord. Thomas, tu...
Pas tant que ça. C'était juste pour savoir, est-ce que vous avez déjà une idée de l'été prochain?
Eh ben, il y aura une espèce de logique à parler des 50 ans de l'été 68, mais j'espère qu'on va peut-être trouver d'autres idées dans ces étés-là, parce que bon, c'est vrai qu'on ne sera pas les seuls à le commémorer, et en même temps à Paris, ne pas le fêter, ce serait dommage. Donc pour l'instant, on réfléchit encore à ce qui sera notre été qui change le monde. Et je voulais revenir au LSD, et je ne sais pas si vous avez lu, mais on est en train de reprendre les expériences cliniques du LSD en 2017.
Donc il y aurait des dépressions qui...
Exactement, et qui avait été arrêté à l'époque sous la pression des labos pharmaceutiques parce que c'était une molécule miracle qui soignait très très rapidement des états dépressifs. Et pour Sanofi et les autres grands pourvoyants de chimie, une molécule qui soignerait des dépressifs en deux prises, c'est pas bon.
Mmh. Oui, il y avait des expériences aussi avec la mescaline, mais après il y a aussi... tout un mouvement où on a perdu quelques personnes quand même dans l'aventure. Donc,
on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Exactement, donc à bien doser comme molécule. Et du coup, on en a parlé un petit peu, mais là vous proposez d'explorer un petit peu les différentes facettes de la contre-culture. J'ai vu que vous proposiez donc, notamment le chamanisme. Ça m'a un peu intrigué, c'est-à-dire...
Oh là là, alors c'était la question qu'il fallait pas me poser. C'est pour ça qu'on la pose. On s'est associé aussi avec Jayce et Lalouf et son projet de musée du psychédélisme pour cet été-là, puisque chaque année on va chercher des partenaires un petit peu sensibles de cette démarche. Et Jayce, il a, il me semble, en France ou dans le monde, la plus grande collection de l'art psychédélique. Mais qui n'est pas uniquement faite d'affiches de concerts des années 60, mais qui va aussi un peu plus loin et qui s'intéresse beaucoup à ces formes-là, au chamanisme. Et je pense que justement, dans des mondes un peu en perte de repère, penser et sortir par le haut, c'est pas une mauvaise chose, je pense.
D'accord, donc c'est une sorte d'aspect spirituel, parce que c'est vrai qu'on parlait à la fois culture, on parlait même LSD, ouverture d'esprit, rendre un autre monde visible. C'est ça que vous essayez de... Sans faire un hommage aux psychotropes, mais c'est ce genre de...
Alors je vais répondre oui sans faire un hommage aux psychotropes, mais je pense qu'il y a une réelle nécessité aujourd'hui de revenir justement au love, comme tu l'as si justement dit tout à l'heure. Je pense qu'on n'a jamais autant manqué d'amour qu'en ce moment, on n'a jamais autant été confronté à des vagues un petit peu autarciques, d'états qui se referment sur eux-mêmes, de barrières qui se ferment, alors qu'en même temps le monde est un petit peu en pleine explosion et on est confronté à des centaines de milliers de migrants qui arrivent un peu partout. Et je pense que c'est plus intéressant aujourd'hui de se dire qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on s'empare d'eux et comment on fait une richesse de cette opportunité plutôt que de construire des murs comme Trump veut le faire au Mexique.
C'est vrai, j'avais suivi un petit peu l'année dernière, vous aviez lancé les cuistots migrateurs justement par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez eu envie de reproduire cette année, mais ça s'était passé comment justement avec... Parce qu'il me semble que c'était justement les réfugiés qui cuisinaient, ça avait eu un certain écho, vous pouvez nous en parler?
Oui. Plus facilement. La rencontre avec les cuistots migrateurs, elle s'est faite l'an dernier au mois de février. Et justement, dans l'élaboration de notre saison d'été, on cherchait à avoir un petit resto éphémère sur le toit. Et quand on a rencontré l'équipe des cuistots migrateurs avec leur projet, on leur a dit, mais bingo, ils avaient un projet qui était encore à l'étape sur papier. On leur a dit, mais nous, à partir du mois de mai, on vous ouvre la cuisine, on vous donne l'espace et vous êtes prêts à travailler. Donc l'idée était vraiment de faire travailler des chefs migrants et au travers du prisme un petit peu de la gastronomie, donner une image un peu plus valorisante des migrants. Ils sont restés avec nous jusqu'en septembre et cette collaboration, le temps d'un été, nous a fait rencontrer énormément de gens, énormément de justement de rencontrer réellement des migrants. En parallèle, on a organisé toute une série de réunions, de tables rondes autour de la gestion de l'hébergement d'urgence avec Emmaüs, avec Aurore. Et voilà, on a été très très sensibilisés à ces gens-là, à cette problématique. Et à partir de la rentrée, on a continué à travailler avec eux, à tel point qu'on a commencé à organiser en décembre une série de concerts dans les foyers de migrants et on a lancé un projet qui s'appelle Welcome à présent. Et donc le principe est vraiment d'aller organiser des concerts dans les foyers de migrants. Donc on garde cette dynamique de solidarité et on a été rejoint par plein d'artistes, par vraiment beaucoup beaucoup de gens qui ont rejoint cette dynamique. À tel point qu'aujourd'hui on n'arrive pas à répondre entre les artistes qui veulent jouer et entre les centres qui veulent qu'on aille faire des concerts chez eux. On n'arrive plus vraiment à répondre à cette demande.
Il y en avait un hier, c'est ça, de concert, c'était le dernier de la saison ou il y en aura de retour en septembre?
Je pense que Johannes est prêt à répondre à cette question. Ou...
De quoi?
Le dernier concert, c'était pas le dernier,
c'est
puisque
pas le dernier,
ça s'arrête pas, non,
au contraire.
Ouais. Il y a une petite pause, mais après ça va reprendre. C'est un projet qui est destiné à être sur un long terme, en fait. Et trouver un moyen de pouvoir le continuer avec des moyens humains et financiers aussi. Mais c'est fait pour durer longtemps.
Ouais, parce que malheureusement, je pense que la vague migratoire, elle va pas s'arrêter. Et je disais encore ce matin dans Le Monde, il y a plus de gens dehors dans les centres d'hébergement que dedans. Et on n'arrive pas à tous les loger. Donc je pense, voilà, c'est un projet qui doit durer. Et il s'est arrêté pendant le ramadan parce que ça pouvait créer des tensions dans les centres d'aller faire la fête, ce que je comprends. Et en même temps, je trouvais ça un peu embêtant pour nous d'arrêter le mouvement parce que nous, on était là vraiment dans une envie... de rencontre avec eux, et chaque concert c'est une expérience extraordinaire aussi bien pour les artistes que pour les gens dans les foyers, et ces artistes là sont ouverts à tout le monde, ces concerts sont ouverts à tout le monde, et le principe c'est vraiment d'arriver à ce que les gens rencontrent aussi les migrants dans les foyers, Et on s'aperçoit qu'ils ont entre 18 et 25 ans et ils nous ressemblent beaucoup plus qu'on ne le croit.
Créer un contact, réussir à rétablir une sorte de confiance aussi parce que c'est perçu comme quelque chose d'étranger, quelque chose qui ne nous ressemble pas, et essayer de Summer of Love.
Exactement.
Mais c'est amusant parce qu'à vous entendre, on est sur un lieu qui est comme une péniche, qui organise des événements, et on a l'impression qu'il y a quand même toute une autre dimension. Que vous essayez d'œuvrer, je dirais, sur le social, ou en tout cas d'avoir un effet bénéfique sur la société. Ça a toujours été l'esprit du Petit Bain,
L'ADN de Petit Bain, et même de ce que faisait Ricardo bien avant la création de Petit Bain.
Il faudra nous en dire plus
j'étais,
après.
J'étais pas encore là, mais... Donc, non, même notamment sur le quartier du 13e, avec beaucoup d'actions culturelles, etc., avec des publics empêchés, des tarifs sociaux pour les dates de concert. Des tarifs uniques à 6 euros pour que tout le monde puisse voir, puisse avoir droit à la culture, en fait, tout simplement. Ensuite, ça passe par ce qu'on fait pour les migrants, d'accueillir des projets comme on a eu les cuistots migrateurs, mais Ricardo, je crois que tu n'en as pas parlé, mais on a le réchaud cette année, en fait, qui est pareil, qui est pour faire découvrir la cuisine du monde via des gens issus de. Via des migrants, en fait. Des gens que. Voilà, et donc ça permet d'avoir une richesse quand même. Une richesse au niveau culturel, niveau gastronomique en fait, et de découverte. Et ce qui fait que, par exemple, le rooftop de Petit Bain n'est pas simplement un bronzy bar, mais un endroit où les gens peuvent être touchés, qu'ils viennent pour boire des coups en attaché caisse, en after work. Ils ont quand même une proposition culturelle et une proposition ouverte sur le monde.
D'accord. Et du coup, Ricardo, qu'est-ce que tu faisais exactement avant Petit Bain?
Alors, je suis un marin d'eau douce depuis plus de 20 ans, puisque ma vie s'étale sur le port de la gare. Je suis arrivé ici avec la guinguette pirate, la Dame de Canton, en 1995, qui était un peu le premier bateau salle de concert parisien ouvert au public, avec une vraie programmation quotidienne, gratuite au début, et puis une vraie démarche d'aller prospecter un petit peu la scène émergente. Quelques années après, on est passé au bateau phare, et je les salue parce qu'ils sont là. Et donc avec un projet plus tourné sur les musiques électro, on était en 99. À l'époque, il y avait uniquement le Rex Club à Paris qui donnait une fenêtre pulp, à ces esthétiques-là. Et le Pulp... en 99...
Le Pulp, il me semble, était déjà ouvert et pas encore fermé.
C'est possible. C'est assez concomitant. Mais en tout cas, la culture électro à Paris, il y avait peu de clubs. Après, ça s'est vraiment énormément diversifié, mais... À l'époque, c'était un vrai appel d'air. Et puis, et tous ces projets-là ont toujours été portés par des structures associatives à la base, même si aujourd'hui, ça peut sembler bizarre que tout ça soit sous-tendu par un projet associatif. Mais la volonté qu'on retrouve dans Petit Bain aujourd'hui, c'est finalement celle qui était là depuis le début, quoi. C'était vraiment un lieu ouvert à tous. D'ailleurs, le Petit Bain est une structure coopérative. Et cette volonté, elle est plus affichée que jamais ici, peut-être parce que on avait... peut-être plus les moyens de l'exprimer, et en tout cas elle reste, comme disait Johannes, dans l'ADN du lieu.
D'accord, on va continuer à en discuter un petit peu, mais tout de suite on va se faire une petite pause musicale avec l'un des artistes qui passe en concert tout à l'heure d'ailleurs, donc profitez-en, et il est toujours temps de venir nous rejoindre.
Thank you. bench with you, dipping my eyes in the stream. Breath from your lips chases shadows away, clearing the mist from our tree. Sitting alone on a bench with you, just as you get up to leave. Holding my breath as I touch your hand, left with the brush of your sleeve.
Venez d'écouter The Pretty Things qui jouait Defecting Grey, un titre qui date de 1967. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Et tout de suite, on continue notre émission en direct du Petit Bain.
Radio Camping Paris, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Et avant de reprendre notre interview avec le patron du Petit Bain, nous recevons Camille sur notre plateau car Camille a une passion. Camille, ta passion, quelle est-elle ?
C'est les quais de Seine. Et oui, moi je voulais profiter de ce radio camping hors les murs, amarré au quai de Seine, pour vous parler des quais. Bon, en vrai, tout cela est vraiment très intéressé, car oui, en ce moment, je réalise une série documentaire sur cette zone au cœur de Paris. Je vais tenter de pas trop en faire la promo, c'est promis. Alors, pour écrire cette chronique, je me suis tout de suite demandé, mais sur quel quai peut bien être amarrée cette embarcation atypique, cette barge qui s'appelle le Petit Bain ? Je vais sur internet, je tape adresse du Petit Bain, j'appuie sur entrée et voilà le résultat, 7 Port de la Gare, Paris 13e. Bref, le Petit Bain ne serait donc pas sur les quais, il serait sur un port. Nous sommes aujourd'hui sur le Port de la Gare, en contrebas des quais de la Gare et du quai François Mauriac. Le Port de la Gare, voilà. Et bah c'est bien là où je voulais en venir. À Paris, pour désigner cet espace situé entre le territoire des automobilistes et le territoire de fleuve, il y a tellement de noms que je ne sais plus comment vous en parler. Depuis que je suis petite, j'ai toujours dit « on va sur les quais », tout simplement les quais. Les quais d'Orléans, les quais de la Tournelle, les quais Saint-Michel, les quais de la Gare, les quais de Seine. D'ailleurs, à ne pas confondre avec les quais de la Seine, qui eux se situent le long du bassin de la Villette. Oui vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Bref, pour moi, les quais, c'est les vieux quais, c'est les vieux quais de Paris.
Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène.
Mais en fait, on pourrait aussi leur donner un autre petit nom.
Les bords de Seine, le septième jour de la semaine. Avec toi, tu veux bien traîner.
Mais mon petit nom préféré, c'est celui-là.
Les amoureux se font une scène sur les berges de la Seine.
Et oui, les berges. Vous savez, c'est le nom des nouvelles voies le long de la Seine créées cette année et en 2013. On appelait déjà ça les berges, mais là, c'est vraiment le nom officiel. Mais moi, je vais vous dire, je pense que la mairie de Paris a choisi ce petit nom uniquement pour faire une magnifique contrepétrie. Les berges sont à vous. Oui, oui, en 2013, à chaque coin des rues, sur des milliers d'affichages urbains, on pouvait lire ce magnifique slogan « Les berges sont à vous, Béatrix ».
Non, 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 mais oui, ça a mis du temps à monter, mais quand j'ai compris, ça m'a fait rire, voilà, j'avoue.
Joli. Bon, vous me direz peut-être que j'en fais vraiment tout un pataquès de cette histoire de sémantique autour du mot « quai ». On a bien la rue, le boulevard, l'avenue, pourquoi on n'aurait pas le port, les quais, les berges, les bords de Seine, les voies sur berge, la voie express. Mais parce que même Google Maps n'est pas d'accord. Et puis parce que la définition de berge sur larousse.fr, c'est talus naturel bordant le lit d'un cours d'eau dans les parties non pourvues de quais. Non pourvues de quais, pourtant ici il y a plein de bateaux qui s'amarrent, donc c'est que c'est des quais. Et puis surtout parce que la petite série documentaire que je vous propose cet été, eh bien, elle est sur ce sujet. Ça fait une semaine que je réfléchis à un titre et que entre les quais, les berges et les bords de Seine, je ne savais plus quel mot choisir. Du coup, l'émission s'appelle « Les passants sur Seine », comme ça, pas de problème. Les passants sur Seine.
C'est l'artère de, ouais, de la ville, de la capitale.
Chronique d'un été sur les quais.
Il y a les ponts.
On a Notre-Dame.
Il y a eu des films mythiques qui ont été tournés ici, c'est génial.
C'est idyllique.
Ça sent la pisse partout.
C'est pas l'Antarctique qui sent le meilleur, je crois.
Il y a les capitaines, bon, c'est les capitaines, c'est tout.
Oh là là, pauvre France, on est dans la merde. Alors les bords de Seine, vous savez, je m'en fous un petit peu. J'aime bien regarder, j'aime bien. Mais j'aime bien les bords de Seine quand même.
Et donc ça se passe un lundi sur deux, à 18h. Le premier épisode, c'est lundi prochain. J'ai enfilé mes baskets pour aller courir avec les joggers des quais de Seine.
Super Camille, bah écoute, merci, on écoutera ça lundi du coup. Je me demande à quoi ça ressemble, une discussion avec quelqu'un qui est en train de courir, mais ça peut être intéressant. On verra ça. Et nous, on se retrouve du coup toujours au Petit Bain, sur le quai, donc non, sur le port, mais qui est un quai. Ok, je suis. Donc avec Ricardo et Thomas. Toujours là.
Toujours là, on m'entend.
Alors avant de nous quitter, on avait discuté un petit peu des personnes présentes donc à ce bel anniversaire, au Hippie Birthday. Et Ricardo, tu m'as dit que le bateau phare était présent. Le bateau phare, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une péniche juste à côté, donc toujours sur le même port quai. Enfin, Camille, elle m'a troublée avec son histoire, mais oui, on est sur des quais. Et donc voilà, quelle relation vous avez avec le bateau phare, Thomas?
Je voulais parler parce que vous organisez un événement concurrent au bal de Radio Campus. Donc on va pas trop en parler sur cette antenne, mais c'est vrai que le 13 juillet, vous faites quelque chose de commun avec le bateau phare, et je crois savoir que vous êtes aussi monté en association, les bateaux de la Seine. Donc comment vous luttez à plusieurs pour défendre la cause des événements culturels flottants?
Alors, tout d'abord, oui, il y a une association qui s'appelle GECBS, je le dis dans le désordre, c'est le Groupement des établissements culturels des berges de Seine, qui regroupe le bateau phare, le petit bain, la concrète, je pars de l'est pour aller vers l'ouest, le flot et le Rosa Bonheur, et tout au bout la Javel.
D'accord, et vous êtes tous associés ça passe par quoi en fait être en association concrètement?
Alors l'association a un an, pour l'instant elle a une existence juridique parce qu'elle a une vraie association, elle a des statuts, tout ça est déposé. On n'a pas encore fait de vraie action, même si on rêvait de faire un jour une traversée de la Seine en bateau, de faire une espèce de déambulation un peu festive, et c'était vraiment, pour nous, ce serait l'événement fondateur. On n'a pas encore vraiment le temps de s'y intéresser, mais je sais qu'Aurélien Dubois de la Concrète, il y tient beaucoup, et finalement cette soirée du 13 juillet qu'on va faire avec le bateau phare qui s'appelle Bataille Navale, c'est un peu une première puisqu'on va ouvrir les deux bateaux en même temps, on va laisser déambuler le public d'une salle vers l'autre avec une programmation qui démarre à 18h et qui finit au petit matin. Et dont le principe est vraiment de se dire on peut circuler sur le quai. Idéalement, ce serait beau que dans quelques années, on puisse faire ça sur tous les bateaux du port de la gare et pourquoi pas sur tous les bateaux de la Seine. Et curieusement, on en parlait ce matin, puisqu'on était à une sortie de l'été du canal qui propose tout l'été des concerts et des croisières musicales sur la Seine, entre le bassin de la Villette et Bobigny. Et nous, ça fait 3 ans qu'on y participe et c'est vraiment un petit peu le moyen de s'évader parce que
on Safari, est... Safari Boat, non, cette année, ça s'appelle pas comme ça, Safari Croisière ou
Ça s'appelle l'été du canal.
Ouais, c'est toujours l'été du canal.
Et c'est vraiment, je trouve, une initiative extraordinaire puisque c'est, nous, ça nous donne l'occasion de naviguer. Et Petit Bain ne peut pas naviguer puisque c'est une grosse, grosse machine. Mais...
C'était ma question, justement. Parfois, vous prenez la mer. Vous m'avez dit que vous étiez un vrai marin. Vous naviguez ou la péniche reste sur son quai?
Alors, malheureusement, alors déjà, c'est une barge, comme l'a dit très justement la demoiselle tout à l'heure. Et parce qu'une péniche, c'est un gabarit très précis. Ça fait 38 mètres de long par 5,05 mètres de large. Et c'est des bateaux qui ont été faits pour naviguer sur la Seine. Mais le bateau phare est un bateau phare. C'est un bateau de 53 mètres de long par 8 de large et qui avait été construit par la Royal Navy pour apporter des précisions. J'aime bien faire l'expert. Et le Petit Bain est une barge de 40 mètres par 10,50 mètres de large. Et c'est vraiment un volume qui a été construit autour de l'idée d'avoir une salle de concert sur l'eau et pas d'essayer de faire rentrer une salle de concert dans un bateau. Donc ça donne ce lieu-là complètement atypique. Et en plus, les architectes encore heureux qui l'ont conçu ont vraiment... construit la petite boîte en bois qui allait autour de la salle de concert.
Les architectes s'appellent Encore Heureux. C'était pas un bout de phrase lancé dans un truc,
c'est leur nom.
C'est leur nom.
D'accord. Et moi je me demandais, c'est compliqué en fait d'organiser des soirées sur la Seine. Moi j'ai une question qui est un peu bête, mais personne ne tombe dans l'eau. Ça vous est jamais arrivé? Non mais.
Alors je vais toucher
heure,
du bois.
Ça doit arriver.
Ça nous est arrivé 5 fois en 6 ans. Et très curieusement, les 5 fois, c'était dans les 2 premières années. Et depuis, alors je continue à toucher du bois, ça n'est plus arrivé. En même temps, on a mis les baignoires qui sont sur le quai juste devant, qui permettent un petit peu de faire une frontière naturelle. Mais en même temps, aujourd'hui, je pense que s'il y a beaucoup de gens qui auraient envie de se jeter à l'eau. Hein.
Avec la chaleur, c'est sûr. Hein.
En plus, la baignade est en discussion avec la mairie de Paris, avec même le département du Val-de-Marne, sur la Marne, sur la Seine.
Allez hop, on y va.
Est-ce qu'il y aura un jour une piscine à côté du Petit Bain? Je ne sais pas.
Remets ton t-shirt Thomas.
Mais il y a une piscine à côté du Petit Bain.
C'est vrai qu'il y a une piscine à côté du Petit Bain.
Mais c'est pour ça qu'on s'appelle Petit Bain.
D'accord, bah oui, c'est intéressant. C'est de là d'où vient votre nom du coup.
Bah oui. Alors, à l'origine, le projet, comme ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on était sur le port de la gare, nous on rêvait d'aller port de Javel. Justement là où on organisait le festival Sous la Plage depuis 2003. Et quand on a demandé à installer un bateau là-bas, on nous a dit non, il n'y a pas d'emplacement disponible, par contre il y a un emplacement au port de la gare. Donc on s'est retrouvé ici, à côté de la piscine, et donc on s'est dit un lieu qui essaie d'accompagner des gens et des artistes juste à côté d'une piscine, c'est le Petit Bain. Donc voilà ce nom.
Et c'est assez intéressant parce que moi le Petit Bain j'ai découvert ça mais par des soirées qui n'étaient pas rock, je sais que vous faites aussi des soirées hip-hop, enfin vous avez une programmation très éclectique, vous étiez aussi au taquet je dirais sur les soirées dubstep à un moment, des soirées trap, des soirées drum and bass, c'est quelque chose que vous continuez à avoir cet éclectisme?
L'éclectisme au niveau plutôt du club ou des salles de ce qu'on fait dans la salle de concert, enfin en horaire concert en fait?
Oh, d'une façon générale, on va dire. Quelle est votre ligne de programmation?
Alors, s'il fallait vraiment parler de ligne de programmation, ça reste quand même à grande majorité indie pop, car le programmateur historique, qui était déjà celui de l'Ingrid Pirate, Nicolas Cunier, c'est quand même plus son réseau. Mm-hmm. Mais ensuite, on s'interdit rien et au contraire, on préfère vraiment garder cet éclectisme qui fait vraiment l'ADN de Petit Bain. Donc là, ce soir, on a du psyché. Dans 2 jours, on a du punk et en même temps, la semaine prochaine, on fait l'électro cumbia, quoi. Donc avec Dengue, Dengue, Dengue. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment que c'est inscrit, quoi,
dans l'ADN.
Disons, façon de respecter l'ADN de départ de Petit Bain et de celle de Nicolas justement. Et en même temps, en étant ouvert vers tous les horizons, notamment vers les autres pays comme la Colombie, comme l'Amérique du Sud, comme le Moyen-Orient. Hier, par exemple, on a fait une soirée Palestine. Enfin voilà, c'est de rester ouvert sur le monde, que ce soit au niveau esthétique ou géographique.
D'accord, et par exemple, pour ce soir, comment vous avez programmé votre concert? Parce que The Pretty Things, c'est un groupe qui tourne encore beaucoup, c'est un groupe des années 60. Comment vous avez eu ces idées-là?
Alors en fait, Pretty Things, on les a déjà fait jouer il y a un an et demi. Ça a été un très très bon concert et je pense qu'aujourd'hui où la vague néo-psyché a jamais été aussi haute, il n'y a qu'à voir à Austin le festival psyché, qu'à sa déclinaison à Angers, le psyché festival de Angers qui a lieu au mois de septembre. C'est vraiment les groupes comme les Black Angels, etc. Il y a du psyché partout et au bout d'un moment ça s'est bien de rappeler qui étaient les darons en gros quoi.
qui c'est qui a inventé ça.
Les papas.
Et voilà, c'est les papas, c'est quand même un peu à la fois les précurseurs du psyché, à la fois les précurseurs du punk. Ils ont été un peu oubliés parce que malheureusement ils jouaient en même temps que les Rolling Stones et les Beatles. Et quand t'es anglais, j'imagine que ça doit pas être le meilleur moyen de percer quand t'es entre deux groupes aussi énormes. Et du coup, je pensais que ça nous paraissait important dans notre temps fort d'été qui est donc dédié à 67 et à Summer of Love, de mettre la lumière sur un groupe un peu obscur mais culte et qui a participé grandement à ce mouvement et qui est encore respecté aujourd'hui et copié mais inégalé.
D'accord, bah écoutez, on va essayer de voir ce qu'était l'original, car Thomas, je crois que tu nous as préparé une petite chronique justement sur le Summer
exactement,
of Love.
Exactement. Camille, j'ai essayé de faire un peu d'auto-promo de manière très, très peu subtile.
On va commencer à sanctionner. Hein.
Exactement, oui, on va commencer à sanctionner parce que mon émission Map Monde, qui est diffusée le vendredi à 20h pendant l'été, s'intéressera au Summer of Love pour la dernière émission de l'année, le 28 juillet à 20h. Donc je vous invite à l'écouter. Mais en attendant, je vais vous parler un peu de l'histoire du Summer of Love. Ça commence donc en janvier 1967 dans le comté d'Haight-Ashbury, sur les hauteurs, en face de San Francisco, donc dans la baie de San Francisco. Et donc du coup, tout le monde se retrouvait, tous les hippies de la baie se sont retrouvés là-bas sur un espèce de discours d'anti-Vietnam, anti-consumérisme. C'était une sorte de zadisme glamour où il y a cette idée de se retrouver. Et pour pallier à ça, ils ont créé quelque chose qui s'appelait le Council of Summer of Love, parce que dès le printemps, ils savaient qu'ils allaient avoir le plus gros afflux de hippies que les États-Unis avaient connu, donc à San Francisco. Donc le Council of Summer of Love, il s'occupait de gérer le logement des gens qui arrivaient, la nourriture, l'hygiène, la programmation culturelle. Il y avait une clinique gratuite qui était offerte à tout le monde. Pendant ce temps, il y avait Timothy Leary qui disait des bêtises sur le LSD, le cannabis. On en a déjà parlé tout à l'heure, donc on va passer outre. Et donc la ville de San Francisco a fait tout son possible pour repousser la horde et la circonscrire de l'autre côté du Golden Gate, donc dans ce comté de Haight-Ashbury. Pendant ce temps, John Phillips, leader de The Mamas and the Papas, a monté donc le Monterey Pop Festival, l'espèce de point d'orgue du Summer of Love au tout début, entre le 16 et 18 juin 1967, où il y avait des groupes internationaux qui sont venus jouer à Monterey. Donc il y avait les Who, Jimi Hendrix, Grateful Dead, Janis Joplin avec Big Brother and the Holding Company. Donc au total, c'est 100 000 personnes qui sont venues sur tout le week-end voir ces groupes-là internationaux, qui n'étaient jamais sortis de Grande-Bretagne. C'était leur premier concert hors de Grande-Bretagne, qui venait jouer aux États-Unis. Pendant ce temps, il y avait Love qui a enregistré Forever Chances. Donc c'était une espèce de d'ébullition qui s'est propagée à travers le monde, puisqu'il y avait le propre Summer of Love toujours en 67, donc à Londres, puisqu'il y avait Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, le fameux album des Beatles sur lequel le petit bain a commencé sa saison estivale, si je me rappelle bien, avec tout un tas de groupes qui traînaient derrière, donc Pink Floyd, Soft Machine, le premier album de David Bowie, les Small Faces, donc tant de groupes qu'on écoutera sur Map Monde plus tard. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, il y avait aussi au Brésil et en France avec Dutron et toute la clique. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui reste du Summer of Love 50 ans après. 50 ans après, qu'est-ce qui reste du Summer of Love? Est-ce que c'est Tinder? Est-ce que c'est Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que c'est le Burning Man aux États-Unis? Est-ce que c'est Nuit Debout? Est-ce que c'est Louis Love Green qui fait du greenwashing mais qui en même temps arrive à faire venir des politiques, des gens qui sont battus contre le pipeline aux États-Unis? Est-ce que c'est Sanders? Est-ce que c'est Corbyn? Est-ce que c'est la France insoumise? Est-ce que c'est les indignés? Est-ce que c'est la Startup Nation? Est-ce que c'est le polyamour? Est-ce que c'est le véganisme? Est-ce que c'est ça un peu les retombées du Summer of Love 50 ans plus tard?
Alors la réponse, ça serait un petit peu de dire partout, parce que je pense que c'est distillé dans tout ce que tu viens d'évoquer. Je pense que We Love Green, malgré tout ce qu'on en dit, reste quand même une espèce de rendez-vous néo-hippie depuis longtemps et qui cultive quand même un impact écologique sur tout ce qu'ils font. Donc c'est là, je pense. Et puis il y a toute une génération de gens, de trentenaires, de vingtenaires, de quadras aussi, qui ont aussi assimiler ça, qui pensent que justement l'avenir il tient plus au développement durable et à préserver la planète. Donc je pense que ces items sont là, Notre-Dame-des-Landes forcément, la France Insoumise aussi, Nuit Debout bien sûr, les indignés tu l'as dit, mais Podemos en Espagne, la Grèce, je pense qu'il y a un vrai mouvement international aujourd'hui qui commence à émerger ou réémerger. Je pense qu'il y a des courants qui sont là. Ils sont très vastes, ils sont effectivement divers, divergents par moment, mais en même temps effectivement les choses bougent sur l'échiquier, on le voit tous les jours, et puis le mouvement de bascule, il passe d'un Obama à un Trump, et donc effectivement des fois ça peut effrayer, mais il est plus que jamais urgent justement de penser à cette urgence planétaire, et le love, comme tu disais, doit être un mot d'ordre assez important, même s'il ne suffit pas à faire de la politique, je suis d'accord.
C'est vrai qu'après, il y a les formes politiques et les événements en tant que tels. On peut se demander même où le courant, du Summer of Love, musicalement, est repris. Quelle est la relève ? On parle de psyché, de mode psyché, mais il y a aussi tout le courant de musique techno, trans-psy, etc. Qui essaye de peut-être avoir une approche de la chose dans notre époque contemporaine. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a toujours cette distinction entre le mouvement politique en tant que tel et un événement épisodique, comme tu l'as dit. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour d'avoir été là, avec nous, pour pouvoir en discuter un petit peu.
Merci, je vous rappelle, Radio Camping.
Merci à vous.
Je vous rappelle qu'on est donc au Petit Bain qui fête son anniversaire ce soir. Vous avez prévu quoi pour cet été, du coup ?
Oh là là, beaucoup de choses, dont les deux croisières musicales sur le canal que j'ai évoquées, mais aussi d'autres événements, les apéros-bars.
Tous les mardis, voilà. 28, 18h, ça y est, c'est fait un stop promo.
Il faut parler plus fort aussi.
Oui, tous les mardis, en fait, à 18h, en entrée libre sur le rooftop, on offre les clés du rooftop à un collectif qu'on aime bien et qui doit nous donner, on va dire, sa version du Summer of Love. Là, par exemple, la semaine prochaine, on accueille le Festival Vision, le Festival Breton. La semaine d'après, on accueille la Veillée Pop. On a eu Entreprise, le label, il y a une semaine. Voilà, il va y en avoir d'autres. On va accueillir aussi un collectif de rockabilly. Enfin, ça va être assez large, mais tous vont nous offrir un peu leur propre image du Summer of Love, et ça risque d'être des soirées très sympathiques.
Et dimanche, le Hip Hop Festival, qui est un festival de créateurs, de stylistes responsables, et dont la ligne est aussi le Summer of Love. Donc il y aura une trentaine d'exposants, de créateurs, de gens qui travaillent justement le textile, en disant c'est pas que des enfants qui cousent en Inde, mais voilà, il y a aussi une vision différente de la création textile aujourd'hui.
D'accord, écoutez, du coup, il faut garder l'œil sur votre agenda. Et de toute façon, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet, sur le podcast de l'émission. Merci encore. Merci Thomas.
Merci.
Donc merci Ricardo.
Merci Alex.
Thomas. Merci Johannes.
Merci Thomas.
Béatrix,
pardon.
Pas du tout Alex.
Pas du tout, ça finit pareil, je me vexerai pas. On est...
Ah, c'était pour le péniche, voilà.
Voilà, on est quitte, on va dire. Bon, tout de suite, on écoute un petit peu de musique et on se retrouve tout à l'heure sur Radio Campus.
Thanks to Rob for his patient guitar.
Vous venez d'écouter Light and Shade de Flair Voyant. Et ça tombe bien parce que tout de suite, on rencontre le groupe sur Radio Campus Paris.
Radio Camping Paris, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
On est toujours en direct de Petit Bain qui fête ses 6 ans ce soir et qui a décidé de célébrer ça en musique avec un concert très rock psychédélique. Au programme, le groupe de pop électro Moonshine, Morricone, Pop Ensemble, les vétérans des années 60 The Pretty Things et le groupe que vous venez d'entendre, Flair Voyant, dont on reçoit donc le chanteur et il va falloir que tu me redises quel rôle tu prends.
Le guitariste.
Tu es le guitariste, hein.
Oui, moi je suis le guitariste, mais lui, Thomas Benger, le chanteur.
Ouais, exactement. Donc on a le chanteur et le guitariste du groupe. Hein.
Voilà.
Bah c'est super. Donc toi, je sais que tu es français.
Ouais, je suis français.
Et toi, tu es brésilien, c'est ça?
Oui, moitié brésilien, mais ma mère est née en France. J'ai un document italien. Je suis citoyen du monde.
Citoyen du monde, c'est beau. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs nationalités justement dans votre groupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment vous avez réussi à vous rencontrer?
En fait, Rodrigo était au Brésil et il m'a écrit beaucoup. On échangeait des choses, des musiques sur les années 60, 70. Et un jour, il m'a dit « je vais venir à Paris » et il est venu effectivement 6 mois. Et il a commencé à jouer avec moi pour mon projet solo. Et puis après, il m'a dit qu'il avait ce groupe Flairvoyant en fait, qui existait au Brésil, dont on avait les bandes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré les chansons en France. Et je lui ai renvoyé les bandes au Brésil. Et après, Rodrigo et Lucas, qui est le batteur, sont venus s'installer à Londres. Et là, on a pu commencer vraiment à bâtir un groupe avec un bassiste anglais. Et le groupe a existé pour la première fois de manière physique en Angleterre.
D'accord.
Parce qu'avant, on s'était jamais rencontrés.
Ah, c'est amusant, c'est vraiment une amitié, une création artistique virtuelle, enfin en tout cas sur...
Au début virtuel, mais comme quoi les réseaux sociaux comme Facebook peuvent aider à...
Ouais,
on s'est écrit et ça a favorisé cette rencontre qui après était une vraie rencontre, voilà.
D'accord, donc vous êtes vraiment des citoyens du monde. Vous avez parlé un petit peu du Brésil, donc à première vue le groupe existait déjà quand toi tu l'as rejoint, Thomas. Et moi, j'ai repéré que vous aviez pas mal été remarqué justement par Rolling Stone Brésil. Vous avez été très présent là-bas ou c'est pourquoi particulièrement le Brésil?
Au fait, on n'a pas vraiment commencé au Brésil. C'était juste l'article sur Rolling Stone, c'était les vrais débuts. C'était pour annoncer l'existence de la possibilité d'un groupe.
D'accord.
Qui a concrétisé en Angleterre. Parce que toujours on a pensé de faire ça en Angleterre, parce que le Brésil c'est pas un pays qui est en tradition de rock and roll et tout ça. Et il n'y a pas une vraie crédibilité pour les rock brésiliens. Mm-hmm. Et on pense pas qu'on est brésilien parce qu'il y a plusieurs nationalités dans les groupes, tu vois. Alors on a pensé de commencer vraiment en Angleterre. Et Rolling Stone a... Dans l'article de Rolling Stone, il dit ça, il dit que le groupe veut s'installer en Angleterre.
Ouais, pour essayer de gagner en crédibilité, légitimité. C'est, au Brésil, ça existe la scène rock?
C'est pas fort, pas très fort.
Et il y a une expression qui vous suit, qui revient régulièrement quand j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez, c'est Barbarians of Rock and Roll. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi c'est...
C'est parce que les Barbariens, ils ont... Ils étaient à Rome, et après ça, Rome est fini. Alors, on fait ça avec l'Angleterre. On va à l'Angleterre pour...
On part en conquérant.
Une domination du rock anglais, c'est ça.
Ok, bah c'est intéressant. Et j'ai vu sur... pareil, parce que oui, je vous ai spoité, voilà, j'avoue. Sur les réseaux, j'ai vu que vous attendiez, et vous étiez même très impatient de jouer avec The Pretty Things. Vous avez déjà eu l'occasion de les rencontrer?
Moi j'ai été les voir, je sais plus où, je crois que c'était au Bus Palladium à Paris, donc je les ai vus une fois en concert, et c'est vrai que parce que j'aime beaucoup la période Rhythm and Blues, les Pretty Things, ouais, c'est un peu le groupe qu'on admire entre autres, mais on était effectivement impatients de les rencontrer. Je pense que à l'époque où j'avais vu le groupe, je les avais pas rencontrés, mais j'avais déjà beaucoup apprécié le jeu de Dick Taylor, qui est toujours un sublime guitariste.
Et ça vous fait quoi de jouer sur la même soirée?
C'est un honneur.
D'accord. Et donc là, on peut dire en quelque sorte c'est que c'est l'une de vos influences. Vous en avez d'autres ?
Ouais, il y a...
Qu'il soit baroque d'ailleurs ?
Alors, moi, pour ma part, il y a les Rolling Stones. Je pense que là, on se rejoint. Et après, moi, j'aime beaucoup, effectivement, la chanson française aussi. Mais ça, c'est plus ce que je fais en solo.
Ah oui, il y a aussi pas que le rock, mais il y a le funk. Par exemple, James Brown, on aime bien. Et on aime bien toutes les chansons ethniques. Par exemple, le jazz manouche. Mm-hmm. De France m'inspire beaucoup pour la guitare et la musique indienne et tout ça.
D'accord. Et vous imaginez par exemple faire des chansons avec d'autres langues que l'anglais, c'est-à-dire avoir par exemple une chanson en brésilien, une chanson en français qui représentera un petit peu la variété des nationalités de votre groupe ?
Ce qu'on a commencé à faire en fait, parce que moi j'ai écrit un petit recueil de poésie et en fait il y a une traductrice, éditrice anglaise qui a traduit un de mes textes en français. Et au moment où on a réalisé le disque, on a pensé en fait à mettre un petit clin d'œil. Donc c'est une phrase en français du poème de base. Donc on a quand même des petits liens. Après, la chanson n'est pas entièrement en français, mais c'est pas impossible que ça arrive, bien sûr. Ouais.
Et vous avez enregistré votre premier EP en janvier de cette année, si je ne me trompe pas. Il a été produit par Chris Kimsey, qui est connu notamment pour avoir travaillé avec les Rolling Stones. Comment ça s'est passé, cette collaboration ?
En fait, Chris, donc, il est réalisateur à Londres. Effectivement, il a travaillé avec les Rolling Stones, avec Led Zeppelin. Et Rodrigo est allé lui faire écouter les morceaux, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, la démo.
Les démos qu'on avait. Et il a bien aimé, on est venu plusieurs fois à Londres parler avec lui, le rencontrer, et puis après on a enregistré ce premier EP à Londres, qui était avant même de faire notre premier concert. Donc on a enregistré, et ouais, il y a une fusion avec lui, une compréhension commune, parce qu'on avait, je pense, une sensibilité musicale commune avec lui.
D'accord, et au niveau chronologique, ça fait combien de temps que vous êtes en contact ? C'est de quand date votre premier concert ? Donnez-nous des petits repères qu'on se rende compte. Hein.
Premier concert, c'était quand ?
Mais avec Chris King, c'est...
Non, tous ensemble, vous deux, le groupe. Hein.
L'idée de Flairvoyant a commencé il y a 3 ans, mm-hmm. Et après on a enregistré les démos avec Thomas. Et après, Chris King nous a contactés... en octobre, je crois, et on a enregistré en janvier. Donc c'est un projet de 3 ans.
D'accord.
C'est concrétisé maintenant.
Et actuellement, vous vivez tous en Angleterre, du coup ?
Non, moi, je suis à Paris. Et je fais les séjours en Angleterre en bus pour aller les rejoindre tous les 15 jours, faire un concert.
D'accord. Et tu connaissais le Petit Bain avant de
venir ? Oui, bien sûr. Je suis venu voir pas mal de concerts. C'est la première fois que j'y joue, mais je suis venu voir un certain nombre de concerts assez chouettes ici.
D'accord. Et là, pour ce soir, ça s'est fait comment ? Tu as eu contact avec Ricardo ?
Non, on a discuté avec Nicolas. Et puis, c'est vrai qu'il y avait cette idée de soirée un petit peu 60s. Donc, forcément, il y avait quelque chose qui nous attirait là-dedans, dans l'idée de la soirée et puis l'anniversaire en plus.
Vous avez une nostalgie de ces années-là ?
Non, je pense pas. J'aime beaucoup ces années-là, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut... faire avec et plutôt avancer dans le sens de faire quelque chose d'un peu plus contemporain, mais avec une inspiration effectivement de ces années.
En tout cas, vous aimez la mode de ces années,
oui.
Parce que, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais effectivement...
La musique,
c'est...
est comme la mode, elle se répète, c'est en cycle, tu vois. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est bizarre parce que les rock'n'roll plus modernes, c'est les rock'n'roll qui s'inspirent aux 60s. Toujours pas... Je dirais que si on s'inspire, c'est plutôt 70s, mais les 60s, c'est très trendy, on dirait, aujourd'hui. Parce que c'est une répétition constante.
Et votre concert est à quelle heure ce soir, du coup ? Parce que là, on est en train de dépasser un petit peu, mais dites-nous.
C'est d'ici une demi-heure, c'est à 20h30.
C'est d'ici une demi-heure, et vous avez prévu quoi ? Vous avez prévu une petite surprise ? Comment vous êtes préparé à ça ?
Il n'y a pas vraiment de surprise. Enfin, surprise parce que c'est la première fois qu'on joue à Paris. Donc, tous les concerts avant étaient à Londres. Maintenant, c'est le premier concert parisien. Donc.
Premier concert parisien ce soir, d'accord. Et vous avez une date à nous annoncer avant qu'on
ouais,
se quitte ?
Oui, bah, le 14, on joue à Londres.
Au Scotch of St. James. C'est le club que Jimi Hendrix a joué son premier concert à Londres. Et on va faire une soirée là-bas.
D'accord, bah ça, pour vous, ça doit être vraiment source, je dirais, d'émotion, en tout cas de fierté. Enfin, pour,
Ah oui, toujours d'émotion.
Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau.
Merci beaucoup.
Et
merci.
Excellent concert, on vous écoutera ouais. Avec plaisir.
Bonne soirée.
Merci. Et tout de suite, on passe à une chronique. Il faut mettre son casque, il faut enchaîner. Et on se dit bonjour. Bonjour Claire.
Bonjour, bonsoir.
On fait ça comme on peut. Hop. Donc dis-moi Claire, tu veux nous parler d'un sujet un peu particulier. Tu veux nous parler d'eau ce soir. En même temps, on est sur... Ouais.
Oui, ben voilà, vu qu'on se trouve ce soir dans le petit bain, je voulais vous faire part d'une découverte aquatique que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle le collectif Blue Parallax. C'est une équipe de 6 passionnés de plongée, d'apnée, de photos et de baignades plus ou moins interdites.
C'est-à-dire ?
Bah en fait, régulièrement, ils se rendent dans des endroits insolites. Par exemple, il y a un parc aquatique abandonné ou le château de Chenonceau. Et ils s'y baignent. Le tout est documenté sur leur site blueparallax.net avec photos et descriptions de leur stratégie adoptée. En fait, la plupart du temps, ils arrivent tôt le matin pour profiter d'une bonne lumière et du désert humain. On a aussi droit au récit d'une expérience malheureuse impliquant un vigile et un chien. Mais bon, je vous laisse découvrir la suite par vous-même sur le site.
Ha ha ha, suspense hein.
Ouais, mais bon, en bref, les photos sont magnifiques et ce petit côté rebelle donne envie de sauter dans le grand bain avec eux. En plus de ça, il y a un vrai côté militant dans leur démarche qui est de sensibiliser sur la protection de l'environnement et la propreté des eaux. Ils se sont essayés plusieurs fois aux baignades dans des eaux parisiennes, comme le Trocadéro ou le Louvre, avec pour but de faire prendre conscience qu'il faut prendre soin de ces endroits.
Oui, si on voit quelqu'un se baigner dans un bassin, on va y repenser à deux fois avant d'y balancer son mégot.
Oui, bon, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et dans le même style, on a aussi le laboratoire des baignades urbaines expérimentales. Même principe que Blue Parallax, piquer une tête là où c'est interdit, dans le but de rendre ces endroits accessibles à la baignade. Le canal de l'Ourcq, la Seine, les fontaines, ils ont tout essayé et ça marche doucement puisque la mairie vient d'annoncer l'ouverture à la baignade du lac Daumesnil en 2019.
Ouais, enfin c'est pas pour tout de suite non plus. Hein.
Oui, c'est vrai qu'ils se pressent pas, mais c'est déjà une petite victoire. Ça me fait d'ailleurs penser que si vous voulez vous baigner gratos à Paris et en toute légalité, si vous avez un peu les pétoches, sachez que le bassin de la Villette sera ouvert à la baignade, comme promis, dès le 17 juillet et jusqu'au 15 septembre. Accessible de 11h à 21h, vous pourrez profiter de deux bassins, un de 1,20 m de profondeur et un de 2 m, ainsi que d'une pataugeoire de 40 cm pour les enfants.
Et bien voilà qui nous fait un programme aquatique prêt pour l'été. Merci beaucoup. Bon, on n'aura pas de virgule, c'est pas grave. Mais en effet, merci Claire, parce que Radio Camping, ça touche à sa fin. Et merci à tous ceux qui y ont participé. Merci à Petit Bain de nous avoir reçus avec autant de chaleur. On leur souhaite un très bon anniversaire. Et beaucoup d'autres, comme on dit. Merci au groupe Flarvoyant. Merci à toute l'équipe de Radio Campus. Merci à Thomas de m'avoir accompagné. Merci à Camille et Claire pour leur chronique. Merci à Hugo Vin pour la réalisation. Merci à Elsa pour la coordination. Et évidemment, merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. En attendant, profitez du soleil et on vous souhaite de passer un très bon Summer of Love. Bisous.